Audiolib présente Citadin de demain. Capitale du Nord, tome 1. De Claire Duvivier, lu par Aurélia Poirier. Prologue. Je suis le produit d'une expérience éducative, une expérience telle qu'il n'aurait pu en exister que dans ma ville et pour ma génération. Car c'est à peu près à l'époque de ma naissance que les choses se mirent à changer pour De Haven. À force de s'étendre, chassant la population dans les faubourgs, elle finit par déborder de ses propres fortifications. Les conseils décidèrent alors d'ériger une seconde rangée de murailles qui serait, comme la première, longée de canaux tenant lieu de voies de communication ainsi que de douves. À côté des faubourgs proprement dits, au sud-ouest, un nouveau quartier sortit du sol au sud de la vieille ville, en l'espace de quelques années. La Grille, nommée ainsi en raison du plan d'aménagement rigoureux mis au point par les délégués du Haut Conseil. Au nombre desquels on comptait ma grand-mère, Kilyota Van Esquil, toujours en première ligne pour tout ce qui concernait la modernisation de la cité. Elle avait été la première, avant la naissance de mon père, à faire démolir l'hôtel particulier en bois de sa famille pour le remplacer par une demeure en briques et en pierre de taille. C'est dans cette bâtisse, encore assez unique en son genre dans le vieux quartier noble que l'on nomme la Citadelle, que je suis née et que j'ai grandi. Mes parents, Reinhardt et Alice Van Esquil, n'avaient pas connu la De Haven obscurantiste où avaient grandi ma grand-mère et les gens de son âge, encore pleines de contes et de mystères, de foi naïve en des divinités incompréhensibles et d'espérance en un hypothétique au-delà. Tout cela avait été balayé à une folle vitesse depuis que le commerce avec les colonies avait pris son essor, apportant à la ville sa prospérité. Les religions n'étaient même plus bonnes à soumettre les peuples colonisés d'outre-mer. Quant aux superstitions, et si elles pouvaient subsister dans quelques cœurs plébéiens, il était du devoir de l'aristocratie, au premier rang de laquelle les Van Esquil, qui avaient compté tant de scientifiques dans leur lignée, de la reléguer définitivement dans le passé. Il fallait moderniser De Haven, l'assainir, la rationaliser. Le port, les canaux devaient fonctionner comme une mécanique bien huilée, et rien ne pouvait freiner la marche du commerce. Pour cela, il était nécessaire de donner naissance aux citadins de demain. Des âmes neuves qui ne seraient plus forgées par les comptines des nourrices et les annonnements dogmatiques des frères laïcs, qui servaient généralement de précepteurs aux grandes familles telles que la nôtre. L'éducation de l'avenir serait plus ouverte sur l'usage de la raison, le développement de l'intelligence. Voilà ce qu'était en substance le credo de mes parents, les Van Esquil, ainsi que des devotiers, leurs voisins à la Citadelle, mais également des amis qui partageaient leur progressisme. Leur idée était simple, leur pari audacieux. Il s'agissait de fournir à leurs propres enfants une éducation complète et éclairée, qui en ferait ces citadins de demain, en plus de créer entre eux des liens puissants qui renforceraient les positions de nos deux familles. C'est qu'elles étaient complémentaires. Les Van Esquil, famille de la mère, actionnaire important de la Compagnie du Levant, avaient beaucoup d'influence au palais grâce à leur charge héréditaire de délégués au Haut Conseil, présentement détenue par grand-mère Kilyota. Les devotiers, quant à eux, famille de la terre, étaient immensément riches, possédant de nombreux domaines à l'extérieur de la cité, où les fermes et les abbayes avaient au fil des décennies laissé place à diverses industries, notamment une briqueterie située en amont du fleuve. Tel était le patrimoine corporel, incorporel et moral qu'il nous revenait de faire fructifier. Nous étions quatre,